sous le paysage, dans les collections du musée Quai Branly Jacques Chirac, avec Magali Mélandry, Aurélien Gabory, Constance de Montbrison, Steve Bourget. Enregistré le 23 septembre 2024.
Donc, nous sommes ici dans une salle du musée du Quai Branly avec
Aurélien Gabory, responsable des collections Afrique.
Avec des masques qui viennent essentiellement de Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal jusqu'à la Côte d'Ivoire, avec une présence massive de masques de Côte d'Ivoire. Et là, à travers les masques, on a aussi des éléments qui se rapportent au paysage. Ne serait-ce que déjà avec les matériaux employés, puisqu'on a des masques qui sont très différents pour certains. Certains sont des sortes de visages qu'on va donc placer devant le visage du danseur. D'autres qui se portent sur le sommet de la tête, et on parle là de masques cimiers. Et puis d'autres qui forment des sortes de cagoules. Donc on a vraiment toute une typologie très variée de masques. Et là, on est dans une région où il y a de la forêt, où il y a des arbres plus grands. Et ça se sent aussi, hein, quand on prend les objets en main, les objets sont plus lourds, le bois est plus dense. Chez les Dogons, par exemple, certains objets, sont en bois beaucoup plus léger. Et ici, pour un objet de même dimension, on a une densité qu'on peut sous-peser juste en les prenant en main. Donc on a bien sûr des masques qui sont sculptés dans le bois. Alors le bois qui est toujours teinté, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le bois, quand on le découpe, on va avoir une couleur de bois naturel qui sera celle de, comme quand on fend une bûche, un bois clair, et qui va en fait être traité d'une certaine façon en couleur, ou alors dans des couleurs très sombres, avec des décoctions de plantes environnantes, de fruits, qu'on va laisser macérer, dans lesquelles on va plonger l'objet sculpté pour lui donner une couleur très sombre. Ensuite, il va être en général huilé avec de l'huile de palme, donc graissé pour obtenir un côté un peu brillant, satiné, qui va être parfois frotté pour pas rester gluant. L'idée, c'est pas d'avoir un objet gluant sur le visage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les objets sculptés, par exemple, certains masques n'ont pas été sculptés à l'intérieur. À l'intérieur aussi, il faut penser à polir et à passer une feuille un peu abrasive d'un arbre pour en fait enlever toutes les petites échardes, parce que le danseur qui va porter le masque sur le visage peut pas se piquer le nez ou les yeux avec des échardes qui seraient restées à l'intérieur du masque. Et puis il y a aussi bien sûr la couleur. Alors on a des exemples ici de masques qui sont très colorés. Par exemple, on a un masque Kinso des Bagas de Guinée, qui est en fait un masque cimier, donc qui se présente comme une sculpture, alors qui paraît extrêmement moderne à nos yeux, puisqu'elle est composée de différents éléments en bois qui sont assemblés et peints de façon très vive, avec des couleurs très vives. Alors là, c'est une peinture industrielle, mais bien sûr, dans les temps anciens, les pigments qui étaient utilisés étaient des pigments naturels obtenus à partir de terre, comme de l'ocre, du blanc, du kaolin, et puis aussi des décoctions de bois qui pouvaient donner une sorte de peinture. Et puis, bien sûr, évidemment, de la poudre de bois rouge qu'on laissait macérer dans l'huile. Là aussi, d'obtenir un pigment à étaler sur la peinture. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le contact avec les Européens, ces éléments qui venaient de la nature environnante ont été abandonnés pour quelque chose de plus vif avec des peintures industrielles. Et ça, beaucoup, beaucoup à partir du 19e siècle. Donc on a cette utilisation du bois, et puis on a un masque ici qui est un masque Edjumba, des Diolas du Sénégal, qui est utilisé pendant l'initiation. Et là, l'utilisation du bois est très intéressante, puisque c'est pas du tout le côté bois qui est utilisé, mais plutôt le côté écorce. Et ça donne en fait cette espèce de cagoule qui est en écorce, en bande d'écorce tressée. Donc quelque chose d'assez surprenant. Et en plus qu'on ne voyait pas, puisqu'elle était entièrement recouverte de cire d'abeille, sur laquelle étaient placées des petites graines d'Arbus precatorius, qui sont des graines qui viennent d'un petit arbre, qui sont des graines rouges et qui, malgré le temps, ne changent jamais de couleur. C'est-à-dire qu'elles vont sécher, etc., mais elles vont toujours rester rouges. Alors là, il y en a beaucoup qui ont disparu, mais c'est un élément qui est utilisé dans beaucoup de cultures sur des sculptures en Afrique de l'Ouest. Ces petites graines rouges qui vont en fait donner de la couleur au bois qui est plus sombre. Et là, qui est utilisé comme de la peinture. Alors évidemment, là, tout a disparu. Il reste que des petites graines rouges au niveau des cornes de ce masque. et des cornes qui elles-mêmes sont des cornes de vaches, qui renvoient au fait que les Magas sont des agriculteurs, donc ils ont effectivement, et ça renvoie aussi au paysage, des agriculteurs et des cultivateurs, donc ils ont des... et des éleveurs, et donc ils ont des troupeaux, voilà, de bovinés qui sont dans des sortes de prairies très marécageuses, et aussi des forêts. On est presque dans une zone de mangrove ici, et puis bien sûr du bois, et ce sont des cultivateurs de riz, donc le côté très humide de la région est aussi présent dans pour leur pratique. Donc on a ces masques en écorce tressée, mais ce sont les grandes fibres végétales qui dissimule le porteur du masque. C'est une sorte de costume végétal qui est fait à partir des plantes de l'environnement. Ça peut être bien sûr du palmier, du palmier raffia, mais ça peut être aussi d'autres longues tiges qu'on peut émincer pour en faire ces lanières qu'il faut comme une cape ou un costume pour dissimuler le porteur du masque. Et puis ici, alors d'autres éléments, je vous parlais de riziculteurs, on est toujours chez des bagas. Et dans les rizières, ce qu'on va trouver, ce sont des serpents. Donc, dans cet environnement très, très aquatique, il va y avoir des serpents. Et de fait, on a des masques chez les Bagas qui représentent des serpents et qui sont censés éloigner la morsure des serpents. Évidemment, les cultivateurs, c'est ce qu'ils redoutent quand ils sont en train de planter ou de récolter le riz, c'est de se faire mordre par un serpent qui adore cette zone humide. Là, on est dans une zone vers la Côte d'Ivoire où il y a des forêts, mais qui ne sont pas aussi denses que ce qu'on peut trouver dans la zone équatoriale. Et dans la zone équatoriale, cette forêt qui à la fois permet de vivre, donc qui pourvoit en animaux, en fruits, en collecte, hein. Il y a des tas de petites choses qu'on peut collecter, comme des chenilles par exemple, qui sont comestibles, qui sont dans cette forêt. Donc la forêt pourvoit à la vie des populations qui sont dans ces forêts, mais qui sont aussi, qui peuvent être dangereuses, hein. Un animal peut être dangereux, il peut toujours y avoir une sorte d'esprit qui rôde, on ne sait pas très bien dans cette zone ce qui se passe dans certaines occasions. Donc la forêt protège, nourrit, mais peut être aussi menaçante. Et c'est dans ces cas-là qu'on a en fait des masques qui évoquent les esprits de la nature. Donc ça va être parfois de façon très abstraite, un masque avec par exemple plusieurs paires d'yeux qui évoquent un esprit avec les yeux toujours, le regard toujours en éveil, hein, toujours, les yeux toujours ouverts. Et puis dans la zone équatoriale, on va avoir beaucoup de masques qui représentent des animaux, alors de façon plus ou moins stylisée. On saura reconnaître le buffle des forêts, mais par exemple un masque à six yeux et avec une arête centrale sur le visage, donc un masque facial qui fait comme un disque avec donc ses trois paires d'yeux et son arête centrale, évoquera un éléphant, ce qu'on peut absolument pas savoir quand on n'a pas la clé de compréhension de cette symbolique. Donc éléphant, buffle, panthère, chouette, voilà, des tas d'animaux de la forêt sont évoqués à travers des masques. Et évidemment là c'est plus facile de retrouver le lien entre l'objet et l'environnement, puisque l'objet fait clairement allusion à un environnement. Alors c'est quand même un environnement fantastique, hein, c'est un environnement mental. L'idée c'est pas de représenter justement un éléphant ou une chouette, mais de l'évoquer. On n'est pas dans l'évocation de la faune environnante, mais d'esprit, donc quelque chose de différent que ce monde qu'on connaît, une sorte de monde parallèle qui est localisé dans cette zone particulière, dans ce paysage particulier à chaque région d'Afrique. Ici, en fait, on a des masques qui sont très divers, qui viennent depuis la côte du Sénégal jusqu'à la Côte d'Ivoire. Donc ça fait quand même une très très longue, très très longue distance. Et on a essayé de varier la présentation en montrant les différentes typologies de masques. Masques faciaux, masques casques, masques cimiers, masques cagoules et autres qui sont très impressionnants. Parce que en fait, il y a un masque qui représente un très grand serpent qui en fait est un masque cimier. Donc il faut imaginer que le porteur du masque va devoir danser avec cette sculpture qu'il va porter sur la tête et qui fait plus de 2 mètres de hauteur. Et lui sera complètement dissimulé par des textiles, hein, donc, ou des fibres végétales, mais il va devoir porter ce morceau de bois énorme au-dessus de sa tête. Après c'est plus facile par exemple pour des pièces plus petites de danser et de se déplacer avec. Ici en fait il y a aussi quelque chose qui est très important au niveau de l'histoire et qui évoque aussi peut-être cette histoire du paysage, c'est qu'on a trois masques qui sont très semblables, qui sont en écorce tressée, qui sont des masques cagoules. Alors certains plus ou moins bien conservés. On est chez les Diola du Sénégal. Et en fait, on a un masque avec des cornes de bovins qui évoque cette initiation qui est portée par les jeunes initiés à leur retour d'initiation. Et en fait, ce masque, il a été trouvé en Amérique. Et il est arrivé dans les collections françaises au XVIIIe siècle. Alors, effectivement, dans plusieurs cultures, alors c'est pas systématique, mais dans plusieurs cultures, et là, je pense particulièrement au Léga, par exemple, d'Afrique centrale, il y a vraiment cette idée de lien entre un individu ou son clan et un animal totem. Donc, et par exemple, pour les Légas, c'est plutôt général, ce sera le pangolin, qui est un animal quasiment intouchable. Et bien qu'on ait quand même des objets en pangolin, je pense à des coiffes où on voit très bien des écailles de pangolin, et donc on peut s'interroger sur le fait que bah, si l'animal est quasiment sacré, comment ça se fait qu'il soit utilisé pour réaliser des objets avec la peau même de l'animal? Et c'est bah, ou un pangolin qui a été trouvé mort dans la forêt, tué par un autre animal, ou tué par accident. Mais dans ce cas-là, effectivement, il y a ce rapport entre l'homme et l'animal avec des animaux qui sont intouchables en fonction de l'individu, et en fonction parfois de toute une communauté. Et c'est très intéressant, et ça me permet de rebondir sur cette question, parce que pour créer des objets en bois, dans certaines cultures, on choisit l'arbre, et on va lui parler, expliquer ce qu'on va faire de lui, faire un certain nombre de rituels, pour d'une certaine façon se faire pardonner d'avoir à couper l'arbre et d'avoir à l'utiliser, mais en gros, on lui donnant une deuxième vie en tant que masque en tant que sculpture. D'une certaine façon, le sculpteur va devoir choisir son bois et communiquer d'une certaine façon avec lui, observer lui-même un certain nombre d'interdits, de rituels, avant de pouvoir sculpter l'objet dans le bois qu'il a choisi.
Nous sommes dans la région qu'on a souvent désignée comme étant les peuples du saumon.
Steve Bourget, responsable des collections Amériques.
C'est-à-dire une région où les grands groupes autochtones de cette région, qu'on appelle aux États-Unis, au Canada maintenant, les Premières Nations, vivaient grâce, entre autres, à l'exploitation des rivières à saumon, mais aussi grâce aussi à l'exploitation de beaucoup de ressources fortes en protéines, comme les coquillages, les animaux terrestres, les animaux marins, et la collecte de végétaux, etc. La particularité de l'adaptation sur la côte ouest de l'Amérique du Nord est surtout liée non seulement à la richesse du milieu, mais ce milieu est si riche, en fait, qu'il va permettre à ces groupes de se sédentariser, c'est-à-dire de se développer en société villageoise sans l'utilisation de l'agriculture et même sans l'utilisation de la poterie. En fait, c'est l'une des rares cas où on trouve des sociétés sédentaires qui n'utilisent ni l'agriculture ni la céramique. C'est vraiment une particularité de la côte nord-ouest. C'est un peuple, moi, que je qualifierais d'un peuple certainement du saumon et des ressources de la mer, mais aussi un peuple du cèdre. Les forêts de la côte nord-ouest sont extraordinairement riches. Elles sont habitées par de nombreux animaux, mais surtout aussi dominés par le cèdre rouge, le cèdre jaune, des arbres gigantesques qui font souvent plus de 100 mètres de hauteur. Et les groupes du Nord-Ouest vont exploiter de façon très habile le cèdre. La particularité du cèdre est qu'on peut non seulement le travailler, le sculpter, ils vont faire énormément de sculptures, bien sûr, avec ce matériau, mais c'est aussi un bois qu'on peut fendre facilement. Alors, ils ont réussi tout simplement avec une technologie très simple à découper une bûche de cèdre en planches, tout simplement en insérant tout le long de la bûche des coins, et en rentrant ces coins les uns après les autres avec un maillet, et éventuellement la planche de cèdre va se découper tout au long. Donc, ils ont construit des maisons énormes qui font souvent plus de 100 mètres de longueur et qui sont complètement bâties avec ces planches de cèdre. Donc, c'est vraiment des maisons assez exceptionnelles. Alors, c'est une adaptation dans un milieu très riche, mais aussi une adaptation, je dirais, en relation avec les animaux et surtout une vision du monde où les groupes de la côte nord-ouest se voit comme faisant partie du règne animal, je dirais, mais d'un certain règne animal, c'est-à-dire les animaux qu'on considère comme ayant des propriétés plus que naturelles. Je n'aime pas le mot surnaturel car ça implique que c'est hors nature, mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. C'est en fait des animaux que les groupes du Nord-Ouest vont privilégier. Ce sont des animaux qui ont des qualités qui sont extraordinaires. Par exemple, l'un des grands sujets de la côte Nord-Ouest, mais qu'on retrouve beaucoup en Amérique, est le corbeau. C'est un des oiseaux les plus intelligents qu'on connaisse, très souvent vu comme le créateur du monde chez ces groupes-là. Alors, très souvent, sur les fameux totems, on en a un ici qui est montré. Je ne vais pas rentrer dans toute la symbolique de l'objet, mais on retrouve très souvent ces fameux animaux esprits, le corbeau, bien sûr, l'aigle et l'ours. L'ours aussi est perçu comme un animal puissant, est un animal, en fait, qui n'est pas un animal, car, bon, si on regarde les ours du nord de l'Amérique, les groupes autochtones les considèrent presque toujours, non pas comme des animaux, mais comme des humains. Comment je dirais? Pas vraiment des humains transformés, mais plutôt d'autres humains. C'est plutôt le mot que je devrais utiliser. Donc, l'ours est vraiment vu très souvent comme le grand-père, l'ancêtre, l'aïeul des lignages de la côte nord-ouest, mais aussi de la côte nord de l'Amérique. La région est peuplée par plusieurs espèces d'ours, mais notamment par les grizzlies, les kodiaks, et un ours qu'on appelle l'ours esprit. Ce sont quand même des bêtes qui font debout près de 3 mètres de hauteur. Donc, ce sont pratiquement des totems debout quand ils se dressent devant vous. Donc, quand vous rencontrez un grizzly qui se dresse devant vous, ben, je pense que votre journée est pas mal terminée. Ce qu'on appelle les totems sur la côte nord d'Amérique ne sont pas vraiment des totems. Ils ne servent pas à faire remonter ces généalogies à l'ancêtre animal primordial. Ils sont la plupart du temps des représentations d'emblèmes, des représentations du clan. C'est-à-dire, quand vous arrivez en canot près d'un village Haïda ou Tsimshian ou Tlingit et vous voyez les totems du village, vous allez reconnaître tout de suite le clan, vous allez reconnaître souvent l'origine de ce clan, vous allez reconnaître le groupe, vous allez reconnaître les privilèges que ces groupes ont. Donc, le totem sert à montrer, dans un premier temps, ce qui nous sommes. C'est une carte d'identité, je dirais. Dans un premier temps. Donc, c'est vraiment dirigé vers l'eau, dirigé vers la mer, c'est dirigé aux gens qui viennent et qui passent devant chez vous. Donc, c'est vraiment des peuples exceptionnels à plusieurs égards, mais ils vivent en même temps sur une mince bande de terre. Ils sont pris, je dirais, entre la forêt, qui est presque impénétrable, et l'océan Pacifique. Donc, c'est des gens qui vivent, en fait, entre deux domaines d'expérience qui sont très différents, mais aussi qui sont, je ne peux pas dire impénétrables, mais qui ont une puissance, qui ont des risques incommensurables. C'est-à-dire, si vous rentrez en forêt, vous risquez de vous perdre très facilement, vous disparaissez dans la forêt, on ne vous retrouve plus, et des fois, quand on vous retrouve, vous revenez presque comme un animal, vous êtes complètement changé. Votre nature va être changée par la forêt, car il y a dans la forêt des entités pas surnaturels, mais des esprits qui sont de la forêt et qui sont extrêmement dangereux. Parmi ceux-là, il va y avoir, entre autres, ce qu'on appelle les oiseaux cannibales, c'est-à-dire des esprits qui vont chercher les humains et qui les amènent et qui viennent nourrir un être qui vit à l'intérieur de la partie la plus profonde de la forêt, qu'on appelle chez les Haïda le Baxba Walanuksiwe, c'est-à-dire un être qui mange, qui nous mange, qui est un être qui va recycler les morts. Donc, quand on meurt, très souvent, Baxba Walanuksiwe va s'occuper de nous. Donc, vous voyez, la forêt est l'endroit où les chamans vont aller, c'est l'endroit où vont acquérir des pouvoirs de toutes sortes, qu'on retrouve aussi représentés dans l'art de cette région. L'océan, lui, c'est un autre monde. C'est un monde qu'on peut dominer d'une certaine façon grâce à la technologie des fameux canaux. Les canaux de cèdre, encore une fois, qu'on va façonner, font souvent jusqu'à entre 50 et 75 mètres de longueur. Il pouvait y avoir jusqu'à 80 rameurs dans un canot. C'est vraiment des embarcations gigantesques, extrêmement bien faites pour une technologie maritime océanique. mais en même temps, vous êtes dans l'océan Pacifique, hein, et l'océan Pacifique n'a de Pacifique que son nom. Hein. Il faut imaginer que c'est des courants. Même aujourd'hui, c'est peuplé d'orques, de baleines, de requins, de pieuvres. C'est rempli, en fait, d'entités énormes, colossales. Alors, l'océan est vu comme l'endroit des richesses extraordinaire, je dirais. Donc, très souvent, on va associer ce monde au monde des grandes richesses qu'on peut obtenir. Bien sûr, si vous attrapez une baleine, vous avez de la nourriture pendant plusieurs mois, d'accord? Donc, cette idée des richesses est vraiment dans l'océan. L'océan, c'est l'endroit où on va aller trouver les trésors. C'est une expression qui est utilisée par ces groupes. Donc, ils vivent vraiment entre deux grands domaines, c'est des formes de désert, un désert liquide, je dirais, un désert verdoyant, le désert des forêts, en fait, la richesse des forêts. Donc, c'est vraiment une société qui s'est bâtie entre deux mondes extrêmement contrastés, mais en même temps interreliés. Nous avons le totem, comme j'ai mentionné, puis nous avons ici aussi un objet qui est une acquisition récente, qui est un don, un objet, à mon avis, tout à fait exceptionnel. C'est une représentation d'un ours, probablement un grizzly ou un kodiak, qui est chevauché par un être qui semble être un être humain. Et sur la tête de l'être humain, on y a inséré des cheveux pour compléter la sculpture. En fait, cette représentation date d'autour du, probablement de la première moitié du 18e siècle, autour de 1720-1730. Et ce qui est représenté est en fait fort probablement un sujet qu'on appelle Kushtaka. C'est le personnage qui est au-dessus et ce qu'on appelle chez les Haïda, mais aussi chez les Tsimshian, un homme loutre. Et l'homme loutre est en fait un esprit puissant, dangereux, extrêmement dangereux. La loutre est perçue comme un des animaux les plus dangereux qui soit. Les gens qui se noient, très souvent on croit qu'ils se noient parce que les Kushtaka, les hommes loutres ou les loutres, les ont amenés dans le fond de l'océan, les ont noyés littéralement. Alors l'homme loutre est en fait fort probablement aussi une aide du chaman. Les chamans vont être souvent associés pas à Kushtaka directement, mais au pouvoir de Kushtaka. Dans cette idéologie, cette sculpture, je pense qu'elle appartenait probablement à un chaman, et à un chaman qui nous démontrait ici deux associations. La première, c'est qu'il était relié à Kushtaka, c'est-à-dire la fameuse loutre dangereuse, mais aussi au pouvoir de l'ours, car tirer la langue, c'est en fait une façon d'obtenir des pouvoirs. Donc, le chaman, quand il va en forêt pour compléter son initiation, pour recevoir les dons qu'il doit avoir pour guérir les gens, pour deviner la chasse, pour aider ses compatriotes à la guerre, il va jeûner. Il va souvent jeûner pendant plusieurs jours en ne buvant que de l'eau salée. Et éventuellement, durant cette période en forêt, il y a des animaux esprits qui viennent à ses pieds, qui viennent mourir à ses pieds et qui leur offrent leur langue. Et lui va prendre la langue de l'animal et il va les avaler. Et c'est comme ça que le pouvoir va venir à lui. Alors imaginez quand un ours grizzly vient s'offrir à vous, vous êtes au sommet de la pyramide des chamans, d'accord? Vous êtes vraiment top of the game, comme on dit. Alors cette sculpture, elle a eu une première vie multicolore, on voit des traces de peinture sous la peinture noire de cette sculpture, car elle a fort probablement été utilisée durant la vie du chaman. Elle était probablement posée sur le sommet d'un petit, appelons ça un totem, mais en fait un poteau qui était peut-être à l'intérieur de sa maison, mais qui montrait ses pouvoirs à lui. Alors pourquoi une loutre? Mais en fait, la loutre est un autre animal très curieux parce que quand il se nourrit, il flotte sur son dos, il est couché sur son dos, il va souvent aller chercher des huîtres, des coquillages ou des oursins qu'il va chercher dans le fond de la mer, dans le fond des rivières. Alors il va chercher la richesse dans le fond de la mer, vous voyez, il ramène la richesse, il les met sur son estomac. Il va flotter, regardez bien dans les photos, vous allez le voir souvent, et il utilise ses mains gentiment et il commence à se nourrir comme nous. En fait, il fait un festin. Il se nourrit comme dans un festin. Cette idée du rapport aux animaux est très, très importante, puisque je vais vous donner un exemple. pour les groupes de la côte nord-ouest, les saumons, quand on parle de l'histoire des saumons, ils vont dire « Ah, les saumons, quand ils remontent la rivière, ils ressemblent à des poissons. » Mais quand ils sont dans la mer et ils descendent dans le fond de la mer, ils enlèvent leur peau de poisson et ils sont comme nous. Ils rentrent dans leur maison en bois, comme nous, et ils s'assoient près du feu, ils fument la pipe, ils ont des potlatches, ils font des festins, ils font tout ça, les saumons. Et après cela, ils décident, ah, ben on va aller nourrir les humains, ils remettent leur peau de poisson, ils remontent, ils vont dans la rivière, ils se laissent attraper, parce qu'on ne pêche pas les saumons, pas plus qu'on chasse les animaux. Ils viennent s'offrir à nous, alors on attrape le saumon parce qu'il veut bien se faire attraper.
Alors, on est dans la forêt primaire de Bornéo.
Constance de Montbrison, responsable des collections Insulinde.
Qui est probablement l'une des forêts les plus grandes avec l'Amazonie, une des forêts les plus épaisses et les plus condensées, les plus mystérieuses aussi. L'île de Bornéo est la troisième plus grande île du monde. Elle se situe au nord de Java, à l'ouest de Sulawesi et à l'est de la Malaisie. Elle est fascinante à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle abrite des centaines de groupes humains qui sont des chasseurs-cueilleurs qui ont commencé à vivre dans ce milieu hautement inhospitalier, très escarpé, dans lequel la seule possibilité de communication était et sont encore les voies fluviales. Donc il y a des très très longs fleuves qui sillonnent cette forêt, il y a des rivières, il y a des ruisseaux, mais aucune de ces voies de communication fluviales n'est tranquille. Toutes les voies de communication sont traversées de rapides, sont dangereuses, à un certain moment, on ne peut plus avancer, on est obligé de s'arrêter, de pénétrer différemment à l'intérieur des terres. Il y a des montagnes également très très hautes, des pics qui montent à plus de 3-4 000 mètres. C'est très très inhospitalier. Et pourtant, il y a des centaines de groupes humains qui vivent en osmose dans cette forêt. Et je dirais dans un état particulier, sensoriel particulier, parce que la forêt, c'est quand même un espace dans lequel on ne voit pas le ciel, dans lequel il n'y a pas d'horizon, et dans lequel vos oreilles sont en permanence stimulées par les bruits. Les bruits du sol et les bruits de ce qui se passe dans la canopée aussi. On a la perception physique, quand on est dans cette forêt, d'un grouillement permanent, et qu'on voit les éclosions, par exemple des crosses de fougères, on les voit sous nos yeux, c'est en croissance permanente et en permanente décomposition dans la même journée. Donc physiquement et intellectuellement, on ne peut pas être dans une forêt comme on est dans une savane ou dans un champ ou dans un espace sur lequel l'œil peut balayer un horizon. Donc déjà, rien que pour ça, dans cette perception du monde environnant, la perception mentale, elle est transformée, elle est complètement différente. Et on le voit sur les œuvres d'art que ces populations ont fait. Ils sont d'une inventivité absolument extraordinaire. Et ce qui est remarquable dans l'art de Bornéo, c'est la façon dont les populations ont travaillé avec le monumental, avec l'érection de poteaux gigantesques qui étaient plutôt plantés sur les rives des fleuves et qui travaillaient avec les forces chtoniennes, c'est-à-dire vraiment les esprits du tonnerre, les éclairs, les orages, vraiment c'est toujours ce rapport à la protection qui est sollicité. Donc si on érige des poteaux avec des figures très effrayantes comme celle que vous avez là, avec cette bouche en triangle très grande ouverte, certainement la langue devait être tirée, des grands yeux qui devaient avoir abrité des coquillages, et tout le long du corps vous avez des sortes de varans qui montent et qui descendent, c'est remarquablement traité en creux et en relief, la pièce est très érodée, elle a été trouvée dans le lit d'un fleuve, donc elle a été un peu bouffée par l'eau et la boue, est protégée par la boue, mais elle est très érodée. On peut imaginer, l'œil la reconstitue assez facilement parce qu'il y a une dynamique des reptiles qui vont en haut et en bas qui est encore perceptible sur les côtés. Donc ça, ces grandes figures, elles protégeaient vraiment des forces qui étaient très puissantes. Et puis, il y a tout un registre avec lequel les habitants sont en permanence reliés. C'est le registre du végétal et des animaux mythologiques. Vous avez là aussi un poteau de maison où vous avez vraiment tout l'entrelac végétal qui est en léger au relief, dans lequel c'est une intrication dingue. On peut difficilement lire tranquillement cet entrelac, mais on le perçoit comme étant quelque chose de très dense, et c'est vraiment la lecture de la forêt. Et vous avez ces animaux mythologiques qui s'entre-dévorent. Vous avez un chien dragon qu'on appelle un assaut, qui est présent quasiment sur toutes les œuvres de Bornéo, qui est en même temps le chien mythique et l'animal protecteur, le dragon protecteur. Vous avez aussi le serpent d'eau, qu'on appelle comme le naga, en fait, qui est vraiment très, très présent dans toute l'Indonésie. Il est présent également à Bornéo. Et vous avez le kalao, qui, lui, vit sur la canopée, qui descend jamais, qui est là et qui est vraiment celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Ils habitent des grandes maisons communautaires dans lesquelles le groupe restait ensemble pour se protéger des attaques des villages voisins et des esprits également. Donc sur toutes les portes des appartements, des maisons longues, vous avez aussi des esprits protecteurs. Les mères, quand elles sortent, elles mettent leurs bébés dans des porte-bébés qui sont des véritables œuvres d'art, puisque chaque porte-bébé est sculptée également de figures protectrices, que ce soit en bois ou en perles. Ils savent également, ils sont très très bons pour les ouvrages perlés. Et ils ont également des perles, eux, indigènes. Et ils ont travaillé les motifs de la perle sur tous leurs costumes, les porte-bébés, les protège-fesses, tout est perlé. Et quand ils s'assoient, par exemple, quand ils se reposent et qu'ils s'assoient dans la forêt, eh bien, on ne s'assoit pas directement sur une souche d'arbre, on se protège. Les textiles de Bornéo sont typiquement ceux qui sont en lien avec la forêt. C'est des textiles qui sont influencés par aucune autre région du monde. Tous les textiles d'Indonésie, vous prenez n'importe quelle autre île, vous pouvez avoir des liens avec l'Asie continentale, avec l'Inde, ça circule parce que les bateaux ont apporté énormément de cotonnades, ils ont apporté énormément de racines qui pouvaient servir aux colorants, et des fils, de la soie, enfin tout ça a commercé depuis la nuit des temps. Mais dans la forêt primaire, il n'y a aucune influence exogène. Tout est là et tout est travaillé avec une intériorité extrêmement profonde, puisque toute cette production textile est liée à la connexion à ses ancêtres, aux ancêtres, à l'idée très profonde que le songe et le rêve accompagnent la vie diurne. Et c'est eux qui ont réalisé les tissus techniquement les plus virtuoses de toute l'Indonésie, avec une complexité de motifs et une saturation des couleurs. Mais chaque textile, en fait, raconte l'histoire de la tisserande, non seulement dans son intériorité, dans son intimité avec son ancêtre, qui va lui donner son motif qui va être celui d'un motif de la forêt. Par exemple, vous avez le lézard, vous avez les araignées, vous avez les vignes, les crosses de fougère, vous avez il y a tout un vocabulaire du décor qui est très codé, qui peut aussi rester secret. Elle ne divulgue rien, la tisserande. Il y a le travail de la transformation de la matière, c'est-à-dire que toutes les racines, ils vont trouver l'indigo, ils vont trouver le Morinda citrifolia, ils ont une connaissance de tous les attributs des végétaux incroyables. Hein. Donc, ils transforment cette matière. C'est les vieilles dames ménopausées qui vont faire la transformation, parce que toute transformation d'une matière soluble en une matière liquide, mordante, il y a un potentiel dangereux. Et là, une fois que le textile est réalisé, et qu'elle est en communion avec le chasseur, il y a des chants, c'est-à-dire que c'est une mise en vibration du monde chez ces populations des chasseurs-cueilleurs. Et le textile, dans sa matérialité, dans sa souplesse, il est déployé, il est utilisé sous toutes les façons possibles. Il peut être vraiment recouvrir les chamans et le protéger totalement au moment où le chaman rencontre les esprits. Il peut protéger les animaux aussi qui vont être sacrifiés pour les mettre à distance des mauvais esprits. Il peut faire des chemins, on peut marcher sur eux. Ils dessinent des sentiers ou alors ils sont comme des murs, des parois amovibles. Et là, ils protègent tout le cérémonial des esprits maraudeurs qui pourraient être là.
Cet épisode est soutenu par l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, Atelier de Sèvres, Nantes Université, et l'association Fieldwork Marfa.